Radio Prague, les informations.
L'attitude tchèque vis-à-vis de la déclaration de Berlin, visite à Prague du chef de la diplomatie slovaque, manifestation de solidarité avec les dissidents cubains. La République tchèque ne veut pas que la prochaine déclaration de Berlin fasse mention de l'an 2009 comme de la date limite de ratification du traité constitutionnel européen pour que ce thème n'ombrage pas la présidence tchèque de l'Union européenne au cours du premier semestre de l'an 2009, une déclaration du délégué tchèque chargé des négociations sur la constitution européenne Jan Zahradil. Des sujets européens, ceux de la sécurité internationale et une coopération en vue de l'abolition de visas américains étaient au menu d'une rencontre des chefs de la diplomatie tchèque et slovaque à Prague, respectivement Karel Schwarzenberg et Jan Kubiš. Jan Kubiš a eu aussi des conversations avec le premier ministre Mirek Topolánek et il a inauguré à Prague une exposition consacrée à Milan Hodža, qui était le premier Slovaque à devenir chef du gouvernement tchécoslovaque il y a de cela 70 ans. Un incident à la Chambre des députés a marqué l'examen du projet de loi sur la création de l'Institut de la mémoire, une institution examinant les crimes du communisme et ceux de la période d'occupation nazie. Après 4 heures de débat houleux, les députés ont donné leur feu vert à ce projet. À un moment donné, la séance a dû être suspendue. Du haut de la galerie réservée aux visiteurs est tombé dans le secteur des députés un paquet d'imprimés avec un texte critiquant les chefs des sociodémocrates Jiří Paroubek pour être un allié des communistes. Pour la 4e fois cette année, une cellule symbolique a été installée sur la place Venceslas à Prague en signe de solidarité avec les dissidents cubains. Des personnalités de la vie culturelle et politique se sont laissées incarcérer à tour de rôle dans cette cellule pour soutenir 75 dissidents cubains condamnés en mars 2003 à de lourdes peines de prison. Malgré une pression croissante sur la démission du chef des démocrates chrétiens, Jiří Čunek, trempé dans une affaire de corruption, ce dernier refuse de quitter ses fonctions de vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire, prônant son innocence. À la conférence nationale du Parti chrétien-démocrate réunie ce vendredi, la direction du parti a exprimé le plein soutien à son président. Les soupçons de corruption datent de 2002, lorsque Jiří Čunek était le maire de la ville de Vsetín. L'ancien président Václav Havel a pris part à une conférence tenue à Brno et consacrée à Pavel Šafářík, philosophe oublié, décédé en 1992. Après une semaine ensoleillée, de courants froids affecteront le pays dès ce week-end, des chutes de neige en montagne et des températures variant autour de 6 degrés marqueront la météo de samedi, jour de fête des Vlastimil. C'était les informations avec Jarka Gusublova.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Des manifestations en faveur des dissidents cubains détenus en prison et contre le régime de Fidel Castro se tiennent à Prague. Ce sera le premier thème de notre tour d'horizon de l'actualité d'aujourd'hui. Le projet de construction d'une nouvelle bibliothèque nationale, qui est l'œuvre de l'architecte mondialement connu Jan Kaplický, provoque une vive polémique. Nous vous en dirons plus dans la suite de notre programme. La République tchèque est critiquée par le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale en raison de sa stratégie à l'égard des Roms. Un thème que nous vous proposerons avant de vous amener dans un club pouvant se vanter de multiples activités artistiques qui a été installé dans un ancien bunker anti-atomique dans le quartier de Žižkov à Prague. Pour la 4e année déjà, l'organisation non gouvernementale Člověk v tísni, l'homme en détresse, appelle l'opinion démocratique tchèque à manifester pour la libération des dissidents emprisonnés par le régime castriste à Cuba. Un sujet d'actualité que vous rapproche Alain Slivinski.
Il y a 4 ans, la dictature de Fidel Castro envoyait en prison 75 opposants au régime. Il s'agissait d'une des plus importantes opérations de la dictature contre l'opposition politique cubaine. L'opinion démocratique mondiale a réagi par des manifestations de protestation et des actions de soutien à la dissidence cubaine. En Tchéquie, c'est l'ONG L'Homme en détresse qui est la plus active. Cette année aussi, une manifestation a eu lieu jeudi devant le siège de l'ambassade cubaine à Prague. Musique cubaine, coups de sifflet, slogans, mais aussi allocutions de certaines personnalités comme l'acteur Tomáš Hanák ou l'ancien dissident et ministre de l'Intérieur Jan Rumel ou la sociologue Jižina Šiklová qui a déclaré entre autres « On dit que l'espoir est le dernier à disparaître. J'espère bien que Fidel Castro disparaîtra quand même avant cet espoir. » Est-ce que la dissidence cubaine et les prisonniers politiques sont au courant des activités déployées en leur faveur dans le monde? Réponse de Jižik Nikl de l'organisation L'Homme en détresse.
Les informations arrivent directement sur l'île, dans les familles des prisonniers politiques, à ces derniers. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, et les autorités ne peuvent donc plus se conduire comme auparavant.
Manifester son soutien à l'opposition cubaine, demander la libération des prisonniers politiques, tout le monde le peut vendredi sur la place Venceslas dans le centre de Prague. Il suffit de se faire enfermer pour une durée symbolique derrière les barreaux d'une cellule improvisée installée par l'organisation L'Homme en détresse, comme certaines personnalités de la vie politique et culturelle, dont le chanteur Jan Barta ou le cinéaste Jan Hajebeik. D'après Jižik Nikl, la situation des dissidents cubains s'est encore dégradée après que Raúl Castro ait remplacé son frère Fidel malade à la direction du pays. Les relations entre la Tchéquie et Cuba sont aussi très tendues, car Prague fait partie des plus sévères critiques du régime castriste. La République tchèque a d'ailleurs initié plusieurs résolutions de l'ONU contre la violation des droits de l'homme à Cuba.
Comme on pouvait s'y attendre, le choix du projet du studio britannique Future Systems de l'architecte Jan Kaplitsky pour le nouveau bâtiment de la Bibliothèque nationale n'a pas laissé indifférent l'opinion publique et a suscité de vives et multiples réactions. Si certains considèrent le projet ambitieux et adapté à son temps, d'autres, en revanche, qui l'estiment par trop dominant, redoutent que le nouvel édifice altère le panorama historique qu'offre le château de Prague.
La poulpe, l'escargot de mer, l'amibe ou encore la méduse. Tels sont quelques-uns des surnoms dont a déjà hérité la bibliothèque futuriste qui, si tout va bien, devrait ouvrir ses portes en 2011. Comme s'en réjouissait l'auteur du projet, Jan Kaplitsky, un Tchèque établi en Grande-Bretagne, les Pragois n'ont pas manqué d'imagination pour qualifier un édifice mauvais champagne en forme de pyramide aux angles arrondis. Ces mêmes Pragois n'ont pas tardé non plus à se diviser en deux camps entre les partisans et les opposants d'un projet baptisé officiellement l'œil au-dessus de Prague. D'un côté, il y a les enthousiastes, les plus nombreux, qui estiment que la capitale en ce début du XXIe siècle se doit d'oser en matière d'architecture et ne pas se contenter de rester la ville musée qu'elle est devenue. De l'autre, il y a les sceptiques qui, sans forcément critiquer l'ouvrage en lui-même, craignent que l'emplacement de la nouvelle bibliothèque ait été mal choisi. Celle-ci, d'une hauteur de 30 mètres, sera en effet située sur l'esplanade de l'Etna qui surplombe le centre de Prague. Or, si Jan Kaplitsky promet une vue imprenable sur le château de Prague et la place de la vieille ville depuis le café qui sera installé dans l'œil géant de la façade, les protecteurs des monuments historiques redoutent, eux, qu'à l'inverse, l'édifice soit trop visible depuis le cœur historique de la ville et altère la vue d'ensemble qui contribue à la réputation de Prague. Depuis que le jury international a rendu public, début mars, son choix parmi les quelques 400 projets proposés, pas un jour ou presque ne s'est passé sans que les médias ne reviennent sur le bien fondé, les points forts et faibles et les conséquences du projet sur l'environnement de la ville. Certains avancent que dans cette configuration, la bibliothèque aurait dû voir le jour à un autre endroit, plus éloigné du centre. Mais ses partisans citent d'autres grandes métropoles européennes, comme Paris avec sa pyramide de verre dans la cour du musée du Louvre où des édifices ultramodernes côtoient les monuments historiques. Reste que Prague, qui possède un patrimoine architectural unique et intact, est parfois quelque peu réticente aux avancées trop rapides dans le temps. Il faudra donc sans doute attendre 2011 lorsque la bibliothèque accueillera ses premiers visiteurs pour que les Pragois donnent un avis définitif.
Et que pense de ce débat houleux Jan Kaplitsky lui-même? Dans les pages du quotidien Gospodarske Noviny, il dit « Je trouve que parfois la polémique n'est pas digne d'une société civilisée. Certaines contributions sont horribles. Ce qui est étranger, c'est que l'on n'entend la voix d'aucun architecte. » La République tchèque, pays qui ne dispose pas d'une loi anti-discrimination, a été critiquée une nouvelle fois pour sa stratégie à l'égard des Roms. Dans sa dernière recommandation, le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale appelle la Tchéquie à adopter des mesures en vue d'empêcher le déménagement des Roms en dehors des villes et communes. Dans son rapport régulier sur la situation en République tchèque, le comité constate que la politique nationale n'encourage pas la création du logement social. C'est une réaction notamment à ce qui s'était passé en automne dernier, lorsque des dizaines de familles roms ont été déplacées contre leur volonté du centre de la ville de Vsetín en Moravie, où elles habitaient un immeuble dans un piteux état. La décision de leur déménagement vers d'autres villages ou dans des préfabriqués en tôle, non loin de la ville, qui avait été organisée par la mairie de Vsetín, dirigée à l'époque par Jiří Čunek, aujourd'hui ministre de l'aménagement territorial, a provoqué des réactions controversées. Trouver des solutions bonnes au lieu de solutions simples, voilà la devise de Karel Holomek, journaliste et activiste rom.
Vláda už v roce 2000 přijala program, nazývejme ho...
En 2000, le gouvernement a adopté un programme en vue d'intégrer les Roms dans la société qui tient compte de tous les aspects de la vie dans le but de les améliorer. Franchement, il était obligé de le faire en raison de notre aspiration d'adhésion à l'Union européenne. Mais je considère que le programme n'est pas suffisamment appliqué dans la vie pratique au niveau régional et communal. C'est là que sont commis les plus grands torts et injustices, dont je citerai en premier lieu la ghettoïsation, le non-respect des groupes roms locaux, le manque de logements sociaux, le chômage.
Si la société majoritaire n'a pas su accepter la communauté rom, les Roms de leur côté n'acceptent pas en leur sein ceux qui appartiennent à cette société. Ajoute Karel Holomek, cette barrière entre la société majoritaire et la communauté minoritaire constitue pour lui la principale entrave à l'intégration. L'initiative est pourtant à ceux qui ont le pouvoir, les moyens et la force, donc à la société majoritaire. Encourager l'éducation se présente comme un instrument irremplaçable. La recommandation du comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale critique également le fréquent placement des enfants roms dans des écoles spécialisées. Le ministère de l'Éducation nationale proteste. Notre système d'éducation ne discrimine point les Roms ou quelqu'un d'autre. On a deux programmes pour les Roms, le programme de soutien de l'intégration de la communauté rom et celui de soutien des élèves roms dans des écoles secondaires, affirme son porte-parole. Nous vous parlions récemment de ce nouveau local peu commun devenu un endroit où les Pragois peuvent découvrir la culture underground. Underground, au sens propre du terme, puisqu'il s'agit d'un abri anti-atomique qui s'enfonce à plus de 20 mètres sous le sol. Alexis Rosenzweig est descendu dans ce bunker construit dans une colline du quartier de Žižkov appelé Parukaška. Reportage.
Právě tato naděje bere lidstvo jako celku sílu ke svržení otrokářů a k zamezení válek.
Lecture de poésie, air de piano joué par une artiste de Sri Lanka. Quand on descend le grand escalier en colimaçon dans les entrailles de ce monstre de béton, ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attend. L'abri anti-atomique de Parukaška a été construit en 1955 et c'est un véritable dédale creusé sous le parc du même nom dans le 3e arrondissement de la capitale. La partie, ouverte depuis le mois de janvier au public pour expos, soirées et concerts, ne représente qu'un sixième de cette immense surface. Michal Tieschinski, alias Miki, est à l'origine du projet. Un projet pour lequel plus de 3 ans de démarches administratives ont été nécessaires.
Le plus difficile a été d'obtenir le permis de construire, parce que faire en sorte que cet espace soit conforme aux normes de l'Union européenne, c'était une vraie galère. Après ça, m'a pris beaucoup un an pour avoir l'accord des pompiers en cas d'incendie. J'ai loué d'autres bunkers à l'arrière pour faire en sorte qu'il y ait une issue de secours. C'était le principal problème.
Et féru d'escalade, Mickey envisage aussi d'installer bientôt un mur de 18 mètres le long des escaliers qui descendent dans le bunker. Plus loin, un bar, un flipper et un baby-foot font ressembler l'endroit à un bistrot normal, mais sans fenêtres. Claustrophobe s'abstenir donc. Et deux salles avec deux scènes différentes peuvent accueillir environ 250 personnes en tout. Et pour Yarda Schweitz, l'ingénieur du son, le bunker Paloukashka a un avantage indéniable sur les autres clubs de la ville, l'isolation de ses murs.
À Prague, il y a un problème en ce moment avec les heures d'ouverture. Plein de clubs doivent arrêter les concerts à 22h à cause des plaintes des voisins. Ici, dans le bunker, ce n'est pas un problème. On peut faire tout le bruit qu'on veut toute la nuit. L'inconvénient est que c'est petit et profond sous terre. Mais en même temps, c'est aussi ça qui est intéressant.
Après de longues tractations, la ville de Prague a accepté de louer l'abri anti-atomique de Paloukashka pour environ 20 000 couronnes par mois et à condition que les lieux puissent être débarrassés en 48 heures en cas de guerre pour que le bunker puisse servir de refuge. Les autorités tchécoslovaques n'y étaient pas allées de main morte à l'époque dans le quartier. L'autre colline, celle de Vitkov, a elle aussi été perforée de long en large pour y construire d'autres abris anti-atomiques.
Qu'est-ce que nous allons vous proposer pendant ce week-end? La rubrique Rencontres littéraires de ce samedi sera consacrée à l'écrivain et dramaturge africain Sunila Boutansi. Récemment, on lui a rendu hommage à Prague dans le cadre du festival Afrique en création. À cette occasion, on a invité à Prague l'actrice et écrivaine Marie Leontine Chibinda, qui avait joué au Rocado Zulu Théâtre, scène expérimentale créée par Sunila Boutansi à Brazzaville. Elle a évoqué les années passées dans ce théâtre au micro de Vassaf Richter.
Que c'était des gens qui n'avaient jamais fait des études d'art dramatique. Mais leur amour du théâtre, leur amour de la vie était si communicatif que quand la troupe de Sony présentait une pièce de théâtre, c'est tout Brazzaville qui venait à la rencontre. C'était la joie, c'était la fête, c'était pas seulement le théâtre avec le tam-tam et la musique, mais c'était le mot, c'était le rêve, c'était la gestuelle et ça, c'était du Sony, quelque chose d'inoubliable.
Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus le répertoire de ce théâtre? Est-ce qu'il y avait beaucoup de pièces de Sunila Boutansi?
Comme vous savez, Sony est un auteur dramatique. Et la plupart des pièces qu'on jouait au début étaient d'abord des pièces collectives, mais dirigées par Sony. Et ensuite, il y a eu des créations uniquement de Sunila Boutansi. Et dans la mise en scène, Sony était assisté par des metteurs en scène comme Daniel Mesguige, Pierre Vial de France, et puis de Monsieur Klein.
Si vous voulez en savoir plus sur le Rocado Zulu Théâtre et Sunila Boutansi, écoutez ce samedi la rubrique Rencontres littéraires. Et c'est la fin de notre programme Faits et événements en République tchèque. Notre émission se poursuit.
C'est un chapitre peu connu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, une opération orchestrée par les nazis pour déstabiliser l'économie de leurs ennemis, une opération au cœur de laquelle s'est retrouvé Adolf Burger, notre invité aujourd'hui. Né à Veľká Lomnica dans l'actuelle Slovaquie, Adolf Burger, à 90 ans, vit dans la banlieue de Prague. Son histoire vient d'être adaptée au cinéma. Le film, intitulé « Les faux monnayeurs », a été présenté le mois dernier à la Berlinale et sort cette semaine en Allemagne. Typographe de formation, le jeune Adolf Burger entame sa carrière de faussaire dès 1939. Dans une imprimerie clandestine du Parti communiste, il imprime pendant 3 ans des faux certificats de baptême pour sauver ses coreligionnaires slovaques de la déportation. Arrêté en 1942 à Bratislava par la garde de Linka, il est déporté à Auschwitz avec son épouse, qu'il ne reverra plus jamais après leur descente du train. Il est à Birkenau, où on lui a inoculé le virus du typhus quelques semaines plus tôt, lorsqu'il entend son numéro de matricule convoqué par le chef du camp.
Tak se na mě podívala, říká Stepan Burger. No on mi říká pán. No Veznov, já jsem.
Il m'a demandé, vous êtes monsieur Burger? Moi j'ai bégayé oui, parce qu'il ne nous appelait jamais par nos noms dans ce camp, seulement par nos matricules. Et puis il a demandé, vous êtes typographe? Et j'ai répondu à nouveau oui. Alors il s'est levé et a dit, monsieur Burger, vous allez demain à Berlin. On a besoin de gens comme vous, d'imprimeurs. Vous allez à nouveau pouvoir travailler comme un homme libre. Je n'ai pas cru à un mot de ce qu'il m'a dit parce que le camp de Birkenau était sous l'ordre NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard, ce qui signifiait que personne ne devait en sortir vivant.
To potrzebę w Berlinie w ciskanach. Zase budete pracować jako wolny człowiek.
Dès le lendemain matin, Adolf Burger est mis en quarantaine avec 7 autres imprimeurs juifs. Une fois assuré qu'il n'était pas malade, l'ISS les font monter dans un train pour la capitale du Reich. La destination finale n'est pourtant pas Berlin, mais le camp de concentration de Sachsenhausen en bordure de la ville.
No, tak som se dostal do Bichika najtajnejšie.
Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la plus secrète des affaires des nazis. L'atelier de contrefaçon des SS, dans les blockhaus 18 et 19. On était 140, que des juifs, qui auraient tous dû être liquidés et partir en fumée. Mais finalement, ça s'est passé autrement.
Pendant 2 ans, Adolf Burger et les 139 autres imprimeurs vont fabriquer des billets de banque, des faux documents et des timbres. Des livres sterling d'abord, en énorme quantité, fabriqués dans cet atelier du diable, dans le cadre de l'opération Bernhardt, élaborée par le régime hitlérien pour ruiner l'économie britannique. Une opération tellement secrète que même le chef du camp de Sachsenhausen ne connaissait pas l'existence de l'atelier. Quand les imprimeurs sortaient pour se laver, parce que les nazis les envoyaient se laver une fois par semaine pour ne pas qu'ils tombent malades, quand ils sortaient pour se laver, tout le camp était fermé. Aucun détenu n'avait même le droit de regarder par la fenêtre.
31 millions d'anglais libres, anglais passé, américain passé, suisse passé.
131 millions de livres sterling. Des passeports anglais, américains, suisses. Contre les soviétiques, on faisait des cartes du NKVD et des documents du monde entier pour les espions nazis. Et puis, ils ont commencé à vouloir faire des dollars. Mais pour faire des dollars, il fallait une technique différente. Et le seul acte de sabotage qu'on a pu faire a été de retarder de quelques semaines la fabrication de la gélatine nécessaire. Mais on n'a pas su retarder longtemps parce qu'ils nous ont menacés de mort. Et les 2 premières centaines de billets qu'on a fabriqués étaient parfaites. Mais c'était trop tard pour eux. Les Russes étaient à 150 km de Berlin.
Les Soviétiques étaient à 150 km près de Berlin.
Transportés de camp en camp à travers le Reich avec les autres imprimeurs et l'atelier en pièces détachées, Adolf Burger arrive d'abord à Mauthausen, puis finalement à Ebensee, où les nazis voulaient les éliminer. Mais en ce début du mois de mai 45, les Américains sont à quelques kilomètres et les résistants autrichiens crèvent les pneus des camions qui doivent les emmener vers la mort. De retour à Prague après sa libération, Il raconte à la police tchécoslovaque les détails de la plus grosse opération de contrefaçon de billets de banque de l'histoire.
Les Anglais ont interdit que l'on parle de toute cette affaire au procès de Nuremberg. L'économie britannique aurait fait faillite si cette affaire avait éclaté au grand jour après la guerre. Les gens n'ont jamais su jusqu'à aujourd'hui qu'autant de livres sterling avaient été contrefaites. Maintenant que le film sort en salle, les gens vont apprendre que les nazis n'étaient pas seulement des meurtriers, mais aussi des faussaires. C'était mon but, et je l'ai atteint.
Le film, inspiré du livre « L'atelier du diable » écrit par Adolf Burger, réalisé par l'Autrichien Stefan Rozovitsky et intitulé « Die Fälscher », les faux monnayeurs en français, ce film sortira sur les écrans de différents pays européens, en commençant par l'Allemagne la semaine prochaine. Adolf Burger, dont le personnage s'appelle August Diehl dans le film, continue, lui, de raconter son expérience dans les écoles et universités allemandes, tout en restant discret sur sa vie après la guerre. En 2002, la chaîne de télévision américaine CBS a organisé une fouille du lac de Töplitz, dans les Alpes autrichiennes. Des cartons entiers de billets, fabriqués dans cet atelier du diable et jetés à l'eau par les nazis en déroute, des cartons entiers donc ont été retrouvés par les plongeurs. Adolf Burger était présent. Il conserve toujours chez lui quelques exemplaires des billets qu'il avait fabriqués 60 ans plus tôt. Et à sa connaissance, ils sont aujourd'hui seulement deux anciens faussaires de l'atelier du diable, encore vivants aujourd'hui.
Merci d'avoir suivi le programme en français d'aujourd'hui. Au revoir.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours.